Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Delphine Saltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
Rudy Kurniawan a 24 ans quand il commence à écumer les salles de vente aux enchères de vins de prestige en Californie et à New York au début des années 2000. C'est un jeune homme doté d'une mémoire et d'un palais hors du commun, mais aussi apparemment d'une grosse fortune qui lui permet par exemple de débourser 13 000 dollars pour une bouteille de Latache 1962, un grand cru de la Côte de Nuit en Bourgogne. Au début, on ne sait pas trop d'où vient son argent. On pense qu'il est l'héritier d'une riche famille indonésienne. En tout cas, il devient une figure respectée de ce club très privé des collectionneurs de grands vins. Il achète et il vend. À partir de 2004, avec un jeune commissaire-priseur new-yorkais aux dents longues, il organise des ventes aux enchères exceptionnelles, où les vieux crus de Bourgogne, notamment, atteignent des records de plus en plus vertigineux. En avril 2008, pour une vente aux enchères chez Christie's, le grand Rudy Kurniawan propose, entre autres, un lot de 97 bouteilles du prestigieux domaine Ponceau, du Bourgogne toujours, des Clos Saint-Denis, millésime 1945 à 1971, estimés entre 400 et 600 000 dollars. Parmi les acheteurs intéressés par cette vente, il y a un riche avocat de Southampton, qui s'y connaît vraiment très bien en Bourgogne lui aussi. Il consulte le catalogue et il décide de passer directement un coup de téléphone au propriétaire du domaine Ponceau, Laurent Ponceau. Il lui parle de cette centaine de bouteilles de 1945 à 1971 en vente bientôt chez Christie's. Et il lui demande depuis combien de temps il en produit du Clos Saint-Denis. Et là, problème. Le domaine Ponceau, lui répond le vigneron au bout du fil, ne produit du Clos Saint-Denis que depuis 1982. Alors, ni une ni deux, Laurent Ponceau, le fils du domaine, prend l'avion pour New York et, comme dans une scène de film, déboule dans la salle des ventes à la dernière minute. Coup de théâtre, les bouteilles sont retirées et Rudy Kurniawan bientôt démasqué. Car grâce au vigneron qui remue ciel et terre, le FBI finit par perquisitionner la villa du millionnaire à Los Angeles. Les enquêteurs découvrent alors un laboratoire avec des centaines de fausses étiquettes, des douzaines de tampons marqués du nom de vignoble ou de millésime, de vieilles capsules, de faux cachets de cire. On ne saura jamais exactement combien de fausses bouteilles le faussaire a écoulé sur le marché. Mais il semblerait qu'aucun de ses acheteurs n'a jamais recraché son verre de Bourgogne millésimé. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, splendeur et misère des faussaires, deux histoires délicieusement désuètes jusqu'à 14h racontées par Fabienne Lomonier.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ma première émotion esthétique, j'avais 10 ans. Une toile de Rembrandt en vitrine. Dans une vitrine à Cannes. Et je suis rentré, j'ai demandé le nom du peintre. Je ne connaissais pas Rembrandt, moi. C'était un portrait, un autoportrait. Qu'est-ce que ça m'a fait? Du bien. L'art de faire de l'art et de voir de l'art m'a fait du bien, oui. Je m'appelle Guy Ribe. Je venais par hasard à Matin du Mois d'août entre la baie de Saint-Cloud et les Américains. Tu vois. À l'école, j'étais pas classé parce que j'arrivais à 11h à l'école, moi. Je travaille avant. J'étais là que pour le. C'était le jeudi, je crois. On devait décorer les cahiers de récitation. Et là, j'étais là. J'ai toujours peint et dessiné. Ma mère m'a. Ça savait ni lire ni écrire. J'avais entendu parler qu'un atelier de soierie cherchait un apprenti. Elle m'a amené. Elle m'a amené dans le plus gros atelier de Lyon, l'atelier Paul Spey. Je suis rentré chez lui, j'avais 13 ans. C'était un type extraordinaire. Il m'a appris le respect du matériel et des couleurs. Parce que je suis un coloriste. à cette époque-là, un atelier, c'était extraordinaire en création. Ils savaient qu'on ne pouvait pas créer de force. Alors, quand ils voyaient que personne ne sortait rien, ils nous emmenaient jouer au boule. Ils disaient, c'est pas la peine de perdre du matériel, on va jouer au boule. Et il y a eu des moments extraordinaires de création. Tu vois, les herbiers, par exemple, ça a été créé un jour avec une brosse à chiottes. Pour gagner du temps, j'ai pris une brosse à chiottes pour faire les herbiers. C'était l'époque où le dessin de soirée marchait très fort. Il n'y avait pas l'informatique, il n'y avait pas tout ça. Tout était gravé à la main après. Et on avait droit à 20 couleurs. Maintenant, ils ont le droit à 3 couleurs. C'était dans un monde de rêve, tu vois. Bah, c'était une époque où j'avais pas de soucis. J'étais libre. J'arrivais à 6h à l'atelier. Enfin, je dormais à l'atelier. Donc, à 6h, je nettoyais les pinceaux, je préparais les couleurs, j'allumais le poêle. J'attendais les chefs pour aller faire leurs courses. Un apprenti, on appelle ça un pommeau. Et moi, j'étais le pommeau du chef d'atelier. Il fallait que j'aille lui chercher ses œufs pour qu'il mange le matin. Il fallait que je nettoie tous ses pinceaux, que je fabrique des pinceaux, que je nettoie toute sa table, que je finisse les dessins qu'il avait attaqués la veille. Je te garantis que tu n'avais pas intérêt à te gourer parce que il te battait carrément. Ah oui, il te frappait. Tu disais un mot, c'était la porte illico. Quand j'ai commencé à peindre, je copiais. Je voulais faire comme les plus grands. Et évidemment, j'y arrivais pas. Donc j'ai abandonné. Et après, j'ai cherché ma propre peinture pour essayer d'avoir une émotion avec moi. Et j'y arrivais pas. Donc je suis tombé dans le commercial, on m'a exploité, évidemment. J'avais mis au point un paysage de Sologne, plage de Bretagne, j'en ai fait des milliers pendant 10 ans. Comme ça se vendait très très bien, on me demandait que ça. Donc je faisais 300, 400 aquarelles par mois. J'avais mis au point des trucs et je mettais moins de 3 minutes pour faire une aquarelle. C'est-à-dire je passais 15 jours à travailler, 15 jours à voyager. Un jour j'ai fait mon premier pot. Mon premier pot c'était un Vesbuche. C'est un peintre graveur, surtout un grand graveur. Et à l'époque, il était très à la mode. J'avais 30 ans. Je suis arrivé à Paris. Et j'ai fait la bonne rencontre avec l'imprimeur, qui était éditeur aussi. Il s'appelait Henri. Sacré bonhomme. Une encyclopédie de l'art. Qui a connu Picasso, qui a connu. Et la première fois que je l'ai rencontré, il me dit, mais pourquoi tu fais tes merdes là, fais ta peinture. Et un jour, je lui ai amené à Chagall. J'ai pas une gouache de Chagall. Il m'a dit, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Pas Chagall, ça. Et il m'a expliqué ce que c'était Chagall. Et on a travaillé longtemps ensemble. C'est un grand joueur. Il partait aux courses. Et il me commandait 3 dessins de Picasso. Il me les payait d'avance. Hein. Et il me disait, tu signes pas. Et il me disait, tu les poses sur la table, je reviens. À l'après-midi, tu dis rien. S'il avait l'émotion, c'est que c'était bon. S'il n'y avait pas l'émotion, il me disait non, c'est pas bon. Il y a tout un réseau. Un réseau intelligent à l'époque. On fabriquait, l'expert disait oui, c'était béton, il disait non, on déchirait. On détruisait. Beaucoup de choses partaient aux États-Unis surtout. Pour moi, Henri était le plus grand expert en art que j'ai connu. Il savait exactement. Tous les peintres que j'ai pratiqués, un peu plus de 200, différents, je suis resté à ma place. C'est-à-dire, j'ai fait des faux. D'abord, je les créais, je ne copiais pas. Je les créais, mais je restais dans mes possibilités. Je n'allais pas plus haut. Par exemple, Picasso, je n'ai jamais été plus loin que mes possibilités. Je ne suis pas Picasso. Donc, j'ai travaillé dans ce que je pouvais faire. Chagall, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Des pots, j'en ai fait des milliers. C'était imparable. C'était imparable. Quand le tableau était pris, et quand il était vendu avec certificat, ça devenait un Picasso. L'émotion était totale. C'était énorme, la sensation. J'ai l'impression d'exister pour quelque chose, tu vois. Je te dis pas que ça me manque, mais presque. c'est une sensation extraordinaire. Le réseau, il était notre, un des plus gros marchands américains. Et Henri, trois personnes. C'était des sacrés bonhommes. Et ils sont morts dans la même semaine. C'est un peu paumé, oui. C'est-à-dire que j'étais plus contrôlé. J'étais plus à l'école de la haute. Hein. Je suis orphelin complètement. Et je suis à la merci de l'argent, de l'habitude de l'argent, de beaucoup d'argent. Et je suis très connu comme possère dans le milieu. Après, je suis tombé sur des types intelligents, des redoutables d'ailleurs. Mais c'était des connards. Mais il y avait un écart monstrueux. Par exemple, une aquarelle de Chagall, je la vendais, moi, une gouache de Chagall, je la vendais, bon, à l'époque, 150 000 francs, c'est-à-dire 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Elle était revendue 200 000 euros. Tu vois la différence? Non, je suis une tirelire. J'ai la poule aux oeufs d'or. J'étais la poule aux oeufs d'or pour Henri, pour ces gens-là. Mais ils savaient le manipuler intelligemment. Alors que les autres, ils ont pris des centaines de millions, mais ça a été la panique. Les belles voitures, les machins, la prime. Tous les jours, ils débarroulaient. Fais-moi un Chagall, fais-moi un Picasso. Ils ont pris un pognon monstrueux. Monstrueux. Oh, ça a duré, pareil, une dizaine d'années. Et puis, c'était un jeu formidable. D'avoir baisé tous les experts, c'était chiant. De démystifier le système. Mais c'est le système qui baisse tout le monde. Alors, hein. Tu sais, il n'y a pas plus de valeur qu'un expert et qu'un marchand de tableaux. Hein. C'est des escrocs. C'est des escrocs. On vend un certificat maintenant, on ne vend pas l'œuvre, on vend un certificat. Certificat garantit la valeur monétaire. Et ça, c'est une mafia. Pour moi, il y a plus de 40% de faux.
Ça, c'est tous les papiers anciens. Hein. Je ne peux pas travailler sur les papiers modernes, moi.
J'en ai jamais fait d'autoportrait. Et tous les portraits qu'on m'a fait, ils ressemblaient pas. Mais je trouve que celui-là, il est bien sorti. Et quand je faisais des gouaches des années 70, j'employais de l'arche de 70. Quand je faisais des dessins de Picasso de 14, j'avais du papier de 14. J'ai aucun problème technique, parce que j'ai manipulé tellement de techniques différentes. Tu sais, pour faire un Picasso, pour savoir dessiner, hein. 3 mois. Hein. Voilà. Pour faire un Renoir, pour savoir peindre. Ça, tu vois, pour être un coloriste. Pour faire un Chagall, pour avoir le même rêve, tu vois, le même romantisme. J'avais une documentation de police, j'avais une bibliothèque, j'avais 2000 bouquins. J'étais très documenté, je savais exactement où j'allais. Et chaque fois, je détruisais le matériel. Tout le matériel qui avait servi à faire un pot, poubelle. Et je signais jamais. Dès que je sortais de chez moi au petit matin, avec le matériel dans la poubelle, j'avais un rouleau, c'est-à-dire une gouache de Chagall, mais elle n'était pas signée. C'est-à-dire que je risquais absolument rien. Signée quand elle était vendue, au dernier moment. Il faut 30 secondes, une seconde pour faire une signature. Dali avait 80 signatures différentes. Picasso, il en a une dizaine. Par exemple, la signature de 14, c'est pas celle de 70. J'ai jamais été peintre, je suis un artisan. Je trouve le mot artisan beaucoup plus beau que je suis un artiste, je suis un peintre. C'est pas une question de temps, c'est de sentir l'émotion du peintre. D'ailleurs, le mot faux, c'est un paradoxe. À partir du moment où tu ressens la même émotion, t'arrives à ressortir la même émotion que le peintre que tu plagies, c'est le mot, c'est un miracle. Moi, bon, je savais que j'allais me faire arrêter, hein, ça c'était évident, mathématique. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient mis le paquet. Hein. Ils étaient 7, dirigés par le commandant Martin. Quand ils m'ont arrêté, ils ne m'ont jamais mis les menottes. Ils m'ont gardé 4 jours au secret. J'ai dormi sur un canapé, j'ai jamais eu les menottes. Un instant. On était jugés, on était 17. Mais j'aurais jamais dû être jugé avec eux, moi. Mais ça a arrangé la justice de mettre tout le monde dans le même panier, tu vois. Bande organisée. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous morts, sauf un, le principal. Lui, il a pris, je crois qu'il a pris 5 ans ferme. Il aurait dû être arrêté à la barre. Il n'a jamais fait un jour de prison. Moi, j'ai pris 3 ans, je les ai faits, moi. Bien sûr que l'on veut. C'est des enfoirés de première. Ils ont saisi 284 tableaux. Martin l'a dit, ils ont clos l'instruction parce qu'ils en sortaient, ils en trouvaient tous les jours. On y serait encore. Tu comprends? Et ça a bien failli foutre un bordel dans le marché de l'art, crois-moi. Moi, je me marrais parce qu'il n'y a que moi qui sais. Et crois-moi, j'aurais pu en mettre quelques-uns dans la merde. Il n'y a que moi qui ai dans la tête tous les pots que j'ai payés. Tu vois? C'est un vrai musée.
Je suis arrivé à Paris dans les années 70-71. Je devais avoir une vingtaine d'années. Hein. Je suis né dans le Beaujolais. J'en avais marre de la province, moi. Je n'étais pas fait pour vivre dans mon bled, là, tu vois. Alors, je me suis barré avec ma valise, je suis arrivé à Paris. Moi, j'ai dépensé un peu le fric que j'avais. Et puis après, j'avais plus de fric. Il fallait bien que je dorme, hein. J'ai tout de suite commencé à faire des conneries. Je suis allé dormir dans un hôtel, rue Hamelin, en plus, dans le 16e arrondissement. Et j'avais pas de fric. J'ai bien dormi et tout. Le lendemain, je dis, j'ai perdu mon portefeuille, je suis allé visiter la Tour Eiffel. On m'a pris mon portefeuille. Et là, le mec, il m'a cru, tu vois. Avec ma tête de paysan. Il m'a dit, vous n'avez rien à me laisser. Bah, je dis, ce que je peux vous laisser, c'est... J'avais une montre, tu vois. Il fallait que je tape dessus pour qu'elle se... qu'elle marche. Alors, je lui ai laissé ma montre, je me rappelle. Puis après, je dis, merde, faut quand même que je... Faut que je fasse quelque chose, là. Faut que je bosse. Je me suis baladé dans Paris. J'ai trouvé un boulot dans un magasin de fringues, rue de la Grande Truanderie, en plus. Tu vois, du côté de Strasbourg-Saint-Denis, là. Moi, j'ai bossé quelques temps. Après, j'ai trouvé un autre boulot, au porte-à-porte. Je faisais du porte-à-porte. Je vendais des filets à provisions, des biscuits. Ah, mais j'ai commencé à ramasser un petit peu de fric. Je disais, tiens, bon, moi, ça va aller. Je me suis payé une chambre d'hôtel dans le 11e arrondissement, ça. Je faisais toujours du porte-à-porte, mais j'ai changé de boulot. C'est là que j'ai rencontré Patrick. Il vendait des calendriers pour une association en porte-à-porte. C'est là que Patrick m'a dit, si tu veux, j'ai quelque chose à te proposer. On pourrait gagner un peu de fric. On avait trouvé un système. On relevait les annonces dans les journaux, les petites annonces là, des mortuaires. On avait acheté des petits stylos, tu sais, les petits stylos où il y a l'heure à l'intérieur, là, tu vois, en digital, là. Puis on faisait des petits paquets comme ça. Puis on s'est dit, tiens, on va faire un truc. On va prendre les adresses des mecs qui sont morts, là, sous le journal. Et puis on va leur envoyer des petits paquets, des petits stylos, contre remboursement. On a ouvert un compte à la poste. Et la famille, quand ils reçoivent ça, ils disent, ah bah oui, le pauvre, avant de mourir, il avait dû commander un stylo. Alors, ils payaient. Tu vois, alors on se faisait du fric comme ça aussi. Il faut le faire, ça, de penser à ça. Hein. Ça fait pas comme ça. Hein. C'était déjà l'arnaque. Là, on a arnaqué les morts, là. C'était grave. Hein. Enfin bon, fallait pas avoir trop de morale pour faire ça, tu vois. J'ai laissé tomber le 11e, là. Je suis venu à Barbès, au-dessus de Barbès, Château-Rouge. J'ai pris une chambre d'hôtel. dans un hôtel, au moins. Puis c'était chaud Barbès dans le temps, hein. Plus que maintenant encore. Hein. Parce que dans le temps, il y avait tous les joueurs de cartes là, qui jouaient les bonnetos là. Mais j'aimais ce quartier, moi. J'aimais cette ambiance. Dans le temps, Barbès, il y avait beaucoup de prostitution, tu sais. Il y avait beaucoup d'hôtels de passe à Barbès. Alors je dis, tiens, il y a un truc qui est pas mal, je vais acheter des gants de toilette, des savonnettes, des bas, des trucs comme ça, des collants. Et puis je vais visiter tous les hôtels de passe. Et puis comme ça, je peux vendre ça aux filles. J'ai acheté ça dans les Point de Gros, tu vois, à Clignancourt, dans les marchés aux puces et tout ça. Je commençais à faire les hôtels de passe. Je passais devant tous les mecs qui faisaient la queue là, pour aller à l'hôtel. Les mères maquerelles qui étaient dans les hôtels de passe, elles appelaient les filles. Elles disaient, venez les filles, venez voir le monsieur, il vous vend des trucs là. Et les filles, elles m'achetaient des trucs, tu vois. Et ça me faisait du fric. Puis j'ai toujours resté en relation avec Patrick et on a commencé à faire les paperasses. Et après, on est devenu un peu faussaire. Alors on faisait des doublettes, tu vois. C'était des vraies identités de gens qu'on mettait sur des papiers, qu'on avait par une auto-école. On avait une nana qui était à Belleville, là, qui avait une auto-école. Quand elle inscrivait quelqu'un pour l'auto-école, elle photocopiait sa carte d'identité, elle nous filait la photocopie du mec, et on la recopiait sur les cartons, les faux papiers, quoi, en fait. C'était des vraies identités qu'on mettait sur des papiers. Ils sortaient pas de la préfecture, les cartons. Ben, on avait un mec qui était encore plus haut placé, qui fabriquait, quoi, tu comprends. Ils étaient déjà signés préfecture. Il y avait juste à mettre le tampon sec, mettre la photo, mettre les rivets. On avait une machine à rivets. Le timbre, il était déjà collé dessus. C'était complètement identique, hein, tu sais. Je mettais les rivets, moi, sur les photos. Et puis le tampon préfecture, c'est moi qui le mettais. Et lui tapait à la machine. C'est lui qui les tapait à la machine, Patrick. Parce qu'il était plus doué que moi pour taper à la machine. La plupart du temps, les gens qui faisaient des papiers, c'était pour partir. Soit en Angleterre, soit en Espagne. Tu vois. Mais ils passaient, hein, ouais, sans problème. C'était des jeunes qu'on régularisait. Ceux qui étaient nés après l'indépendance, pour ainsi dire. Ouais. Des Algériens, surtout. Hein. On avait un rabatteur, tu vois, un mec qui s'occupait de trouver des mecs, de trouver les rebeux qui voulaient des papiers, tu vois. On avait affaire qu'à une personne, parce qu'on ne voulait pas rencontrer tout le monde, fallait éviter. C'était 1500 francs à peu près, hein. C'était pas trop cher, hein. 1500 francs de carton, on arrivait à en faire 3-4 par jour. Donc c'était quand même de l'argent, quoi, ça nous faisait du fric. Et puis cet argent, on l'a dépensé. Hein. On allait boire des trucs dans les brasseries chics. On allait chez Angelina boire des chocolats. On allait chez Ralph Lauren, on s'achetait des fringues. Enfin, on avait du fric, alors on se privait pas de trop. On était très généreux. Moi, quand j'allais dans les cafés, je payais des tournées générales. Hein. Et Patrick aussi, d'ailleurs. Bah oui, parce que c'est de l'argent gagné facilement, alors, tu vois. Une fois, on a fait des papiers à un mec, là. On lui a fait une carte d'identité, un permis de conduire et une carte d'étudiant. Il s'est fait contrôler en bas de chez moi, là. Et le mec, il a pas su lire le nom qu'il y avait dessus. C'est un mec qui venait d'arriver du bled. Il nous avait déjà vus, lui, par contre. Alors, il s'est fait gauler. Et qu'est-ce qu'il dit, le mec? Il a dit au flic, où est ce mec qui s'appelle Michel et Patrick? Et Patrick a une Mercedes. Il nous a carrément balancé, tu vois. On était dans un café avec Patrick, en train d'écouter des disques. Il y avait une jukebox, tu sais, dans le temps, il y avait des jukebox dans les cafés. Alors moi, j'étais en train de mettre... Je buvais mon café. Patrick était en train de mettre un disque. D'un coup, les flics sont rentrés là-dedans. Ils ont arrêté Patrick, directement. Ils ont mis les menottes. Mais moi, je sais pas, ils m'ont pas arrêté, moi. Ils m'ont laissé dans le café. Alors, ils ont embarqué Patrick. Entre-temps, j'avais débarrassé le matos. Parce que, une fois que Patrick s'est fait arrêter par les flics, comme moi, ils m'ont pas arrêté, moi, dans la journée, j'avais embarqué tout le matos. Je l'ai embarqué chez un pote à moi. Le lendemain matin, ils sont venus perquisitionner chez moi. Ils sont tapés à ma porte, les flics. Alors que les flics sont venus ici, ils m'ont mis les menottes, là, au milieu, là. J'étais assis, là, au milieu. Ils ont fouillé partout, ils m'ont tout déversé. Ils ont même ouvert mon matelas. Ils cherchaient des papiers. Ils m'ont dit, ouais, je suis sûr que tu connais ton pote Patrick. Je dis, non, moi, je le connais, c'est un ami à moi, mais je le connais pas plus que ça, quoi. Oui, mais on t'a déjà surveillé, on te voit tout le temps avec. Je sais que t'étais avec... Vous faisiez les papiers. Je dis non, il n'y avait pas de papiers. Hein. Ils ont fouillé partout, ils n'ont rien trouvé, évidemment. J'avais tout débarrassé. Donc, ils m'ont embarqué. Ils ont dit, dis donc, ça va, vous avez fréquenté des grandes pointures, vous? Parce que Patrick, pour eux, c'était une grande pointure. C'est là qu'ils m'ont dit, mais vous avez régularisé tout le quartier, vous, hein? Moi, j'ai dit, moi, je ne connais pas, padadi, padada. Il y a eu deux lignes, hein. Moi, j'ai pas parlé, tu vois. Et puis, le soir, ils m'ont relâché. Et Patrick, lui, il est passé en jugement. Et en fait, il a été relâché au bénéfice du doute, puisqu'il n'y avait pas de preuves, en fin de compte. Puisqu'il a nié. Et puis, Patrick, il s'est pris quand même 4 mois de prison, en préventive. On a continué encore, hein. Un petit peu, ouais. On faisait gaffe quand même, parce que là, on était un peu grillés, quoi, même. On a dû régulariser au moins 100 de mecs, hein. Facile, hein. Sûrement plus, hein, je pense. Ouais, je me souviens plus très bien, mais on en faisait tous les jours. Hein. Alors, je pense que j'aidais les gens, les clandestins, moi, ça me dérangeait pas. Au contraire, j'aidais les clandestins. Ça leur faisait des paperasses, ils pouvaient circuler. J'ai pas eu de problème moral. Hein. Non, au contraire, j'étais fier de ce que je faisais. Hein. Ouais, ça me... Quand j'y repense maintenant, oui, je me dis qu'après tout, je regrette pas. Hein. Je regrette pas.
No cares for me, I'm happy as I can be. I've learned to love and to live. Devil may care. No blues or woes, whatever comes later goes. That's how I take and I give. Devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool dreams he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Profession Faussaire, un reportage de Fabienne Lomonier, réalisé par Cécile Lafont et mixé par Mathieu Leroux. Merci à Guy Rib, à Michel, à Samia et à Rémi. Notre attaché de production, c'est Mélissa Foust et François Bréus, notre stagiaire.